VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Bagassi Koura.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 6 juillet 2016. Au sommaire ce soir...
Les musulmans du monde entier fêtent la fin du Ramadan au Sénégal. Pour une fois, la date fait l'unanimité des confréries musulmanes.
Dans les autres pays, on n'a jamais assisté à deux fêtes dans un même pays. Ici, il est arrivé même qu'on a fêté trois fois.
Voilà, on va fêter ensemble au Sénégal. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé aujourd'hui au Rwanda. Étape très symbolique d'une tournée historique.
République démocratique du Congo, l'opposant Ernest Caviro a été libéré après avoir purgé sa peine.
Et retour en prison pour l'athlète sud-africain Oscar Pistorius pour meurtre. Quant au footballeur argentin Lionel Messi, il a été condamné à 21 mois de prison par un tribunal espagnol pour fraude fiscale.
Euro 2016, le Portugal affronte ce soir le pays de Galles dans le premier match de la demi-finale.
Mais d'abord, le journal.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé aujourd'hui au Rwanda, étape très symbolique d'une tournée africaine historique, afin de consolider les liens entre les deux pays à l'histoire marquée par un génocide. John Lyndon.
Accueilli à sa sortie de l'avion par le président rwandais Paul Kagame et son épouse, Benjamin Netanyahou s'est rendu en fin de matinée au mémorial du génocide de Gigozi à Kigali, où reposent dans les sépultures communes quelques 250 000 des 800 000 victimes du génocide rwandais commis d'avril à juillet 1994, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Au lendemain du génocide, le gouvernement rwandais s'est senti une réelle affinité avec Israël pour des raisons historiques évidentes. C'est un pays qui a également connu un génocide. Les liens entre Israël et le Rwanda ne s'arrêtent pas au génocide et se sont intensifiés ces dernières années, notamment depuis la visite à Jérusalem de M. Kagame en 2013. Les deux pays ont signé un accord de coopération en 2014 et 2015 et le Rwanda a ouvert une ambassade à Tel Aviv. Le premier ministre israélien est attendu en Éthiopie demain.
Voilà, John Lyndon, République démocratique du Congo. L'opposant Ernest Caviro a été libéré après avoir purgé sa peine. C'est ce qu'indique sa famille, citée par l'AFP. Chef du RDCKML, c'est un mouvement. Il avait été condamné pour incitation à la désobéissance civile suite aux émeutes anti-pouvoir de janvier 2015 à Goma. Âgé de 48 ans, il est en traitement dans un hôpital de Kinshasa où il avait été transféré en mai.
C'est l'Aïd El-Fitr, la fin du Ramadan aujourd'hui au Sénégal. Le président Macky Sall a profité de ce jour pour pour gracier 600 détenus. C'est ce qu'indiquait l'AFP citant des sources officielles.
Et au Cameroun, l'avocate franco-camerounaise Lydiane Yen Eyoum a elle aussi bénéficié d'une grâce présidentielle. Elle a été libérée mais doit rembourser plus de 1,6 million d'euros. Elle avait été condamnée pour détournement de fonds.
Émeute au Kenya, plusieurs centaines de personnes ont incendié un poste de police au sud de la capitale, Nairobi. 4 policiers récemment arrêtés suite à l'assassinat d'un avocat et de 2 autres hommes travaillent dans le bâtiment visé.
Retour à la case prison pour Oscar Pistorius, condamné à 6 ans de détention pour meurtre. L'athlète sud-africain, idole déchu des stades, a été incarcéré à la prison centrale de Pretoria après sa condamnation en appel ce mercredi pour le meurtre de sa petite amie. Une sentence bien inférieure à la peine habituelle pour ce crime. Les précisions avec vous, Tatiana Mosso.
C'est dans une salle comble du tribunal de Pretoria que le sextuple champion paralympique de 29 ans comparaissait. Amputé des deux jambes, il était entré dans la légende en s'alignant sur 400 mètres avec les valides aux Jeux Olympiques de Londres, c'était en 2012. En première instance, il avait écopé de 5 ans de prison pour l'homicide involontaire de sa petite amie, abattue de 4 balles chez lui. Mais en appel, il avait été reconnu coupable de meurtre. Le parquet, qui avait réclamé au moins 15 ans de détention, soulignant que Pistorius n'avait pas exprimé de remords, n'a pas immédiatement annoncé s'il ferait appel ou non de la sentence. L'avocat de la famille de la victime a simplement dit que rien ne ramènera Riva et qu'il est exclu de faire appel. Oscar Pistorius pourra demander sa libération conditionnelle après avoir purgé 3 ans en prison et sera donc en théorie libérable en 2019. Il retourne ainsi derrière les barreaux, alors qu'il était assigné à résidence chez son oncle à Pretoria depuis octobre 2015, après avoir passé 1 an en prison.
Le président Barack Obama a décidé un nouvel ajustement de sa politique en Afghanistan. Il a annoncé ce mercredi le maintien d'un plus grand nombre de soldats américains qu'initialement prévu. Les précisions de Timothée Donangmaï.
L'administration Obama se proposait de faire passer le contingent américain en Afghanistan de 9 800 soldats actuellement à 5 500 d'ici la fin de l'année. Toutefois, sur la base des recommandations du nouveau commandant des troupes américaines en Afghanistan, le général John Nicholson, et de celles du secrétaire à la Défense, Ash Carter, le président Obama a dit avoir décidé de modifier ce plan. Ainsi, au lieu de diminuer le nombre des soldats à 5 500 d'ici la fin de l'année, les États-Unis maintiendront approximativement 8 400 soldats en Afghanistan jusqu'à la fin de mon administration l'année prochaine, a-t-il déclaré. Les talibans continuent d'être une menace et ont gagné du terrain dans certains cas, tout en poursuivant leurs attentats suicides, y compris à Kaboul, a souligné le chef de l'exécutif américain. Barack Obama a dit qu'il déploiera des efforts en vue d'obtenir un soutien accru à l'Afghanistan lors du sommet de l'OTAN à Varsovie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a exprimé ce mercredi sa peine, ses regrets et ses excuses après la publication d'un rapport accablant sur sa décision d'engager militairement le Royaume-Uni en Irak en 2003. « C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Je l'ai prise de bonne foi », a déclaré l'ex-chef du gouvernement britannique, visiblement ému lors d'une conférence de presse à Londres.
Encore une mauvaise nouvelle pour Lionel Messi. L'attaquant du FC Barcelone et son père ont été condamnés aujourd'hui à 21 mois d'emprisonnement et à des amendes de 3,7 millions d'euros au total pour fraude fiscale par un tribunal de Barcelone. Il devrait cependant échapper à la prison. Les explications de Nicolas Pinault.
Oui, la star argentine du football est donc condamnée pour avoir fraudé sur les revenus tirés de ses droits à l'image entre 2007 et 2009. Le jugement du tribunal de Barcelone précise que Lionel Messi devra verser une amende d'un peu plus de 2 millions d'euros au fisc et son père 1,6 million d'euros, soit plus de 3,68 millions d'euros au total. Cette décision peut encore faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême espagnole. Le quintuple ballon d'or argentin, âgé de 29 ans, avait tenté d'argumenter lors de son procès qu'il ignorait tout du montage des sociétés que son père, Jorge Horacio Messi, et ses avocats avaient organisé pour éviter de payer plus de 4 millions d'euros au fisc espagnol. Messi et son père ont déjà soldé leurs dettes avec le fisc et les intérêts de retard, soit 5 millions d'euros. Ils ne doivent donc plus que les amendes. Lionel Messi devrait cependant échapper à l'incarcération. En Espagne, les peines de moins de 2 ans de prison ne sont généralement pas exécutées.
Une nouvelle mesure pour fortifier les frontières européennes face à la migration. Ce mercredi, les eurodéputés ont adopté un texte créant un nouveau corps européen pour protéger les frontières extérieures de l'UE. Cette mesure, rapporte l'AFP, est censée pouvoir envoyer rapidement jusqu'à 1500 gardes-frontières de différents États membres dans un pays débordé par un flux de migrants.
Les États-Unis ont renforcé aujourd'hui leur coopération militaire avec la Géorgie, inquiète, tout comme l'Ukraine, des éventuelles visées expansionnistes de la Russie dans les ex-républiques soviétiques. En route pour le sommet de l'OTAN à Varsovie, vendredi et samedi, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé dans la journée à Tbilissi avant une étape jeudi en Ukraine. Le responsable américain tient à rassurer ses voisins de la Russie et les assurer du soutien de l'OTAN en amont du sommet de l'organisation de la capitale polonaise.
Voilà, cette visite inédite en Syrie, le président Bachar al-Assad s'est rendu ce mercredi à Homs, une ville du centre du pays, pour assister à la prière de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Le chef de l'État syrien, dont les sorties en public sont assez rares, est apparu aux côtés du ministre des Biens religieux, Mohamed Abdel Sattar Saïd, et du mufti de Syrie, Ahmad Badreddin Hassoun, dans la mosquée de Al-Safa à Homs, dans le centre du pays. Homs, il faut le dire, est au maître du régime, à l'exception d'un quartier de la périphérie tenu par des rebelles, mais avec qui une trêve a été conclue.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
On passe au sport à présent dans cette émission, le journal de l'Euro. C'est avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Jour J pour les Portugais et les Gallois.
Première demi-finale de l'Euro ce soir, coup d'envoi 19h, temps universel. La surprise galloise contre une équipe portugaise talentueuse mais qui n'a jamais rien gagné. La surprise galloise contre une équipe portugaise talentueuse mais qui n'a jamais rien gagné. Intéressons-nous tout d'abord au Portugais et à celui qui est sans doute le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo. L'année 2016 sera-t-elle enfin l'année de la consécration alors que le Portugal n'a gagné aucun match en 90 minutes de jeu depuis le début de la compétition? Le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. La longue histoire du football mondial est marquée par l'apparition régulière de brillantes formations qui ont chacune en leur temps joué les terreurs des stades sans pour autant remporter le précieux trophée convoité. Ce sont les fameux rois sans couronne, les grands malchanceux de la glorieuse épopée des Blancs-Rouges. En Coupe du Monde en particulier, les plus célèbres ont été la Hongrie de Puskás dans les années 50, les Pays-Bas de Cruyff, de Gullit et de Robben à partir des années 70, ainsi que du recette de Belanov dans les années 80. Depuis la World Cup anglaise, le Portugal de Zébio, puis Chalana, Figo et Cristiano Ronaldo accumulent les assistants, surtout en Europe, où il atteint régulièrement les demi-finales, parfois la finale, sans gagner. Ce roi sans couronne, surnommé le Brésil d'Europe, par son jeu spectaculaire, a souvent manqué de réalisme, ce qui l'a parfois conduit à choisir de jouer contre nature pour conjurer le sort. Il nous souvient qu'à la Coupe du Monde 66, un défenseur portugais, Vitinho Moraí, conquis à la mort du Catenaccio, élimina physiquement le roi Pelé sur les pelouses anglaises. Le choix entre ces deux philosophies opposées de jeu continue à paralyser la formation ibérique dans cet Euro 2016, où la sécurité défensive est privilégiée, ce qui bride les artistes et fèvre en bon ballon le chasseur de but qu'est Ronaldo. Les amoureux du beau jeu n'ont qu'un seul souhait, désormais pour ce mercredi, que les artistes se libèrent et que Cristiano s'éclate. À demain.
Coup de projecteur à présent sur la révélation de ce tournoi, le Pays de Galles, les Gallois qui ont les moyens de faire mal, comme nous l'explique Eric Manirakiza.
Le Pays de Galles pourra compter sur sa star Gareth Bale. Hier, il s'est entraîné normalement avec l'ensemble du groupe de Chris Coleman après s'être mis à l'écart lundi pour courbature. L'attaquant du Real Madrid, âgé de 26 ans, est le véritable métronome de cette équipe galloise. Mis à part le milieu de terrain d'Arsenal, Aaron Ramsey, le défenseur de Tottenham, Ben Davies, tous deux suspendus, le sélectionneur Chris Coleman peut donc compter sur l'ensemble de son groupe en vue du choc contre le Portugal de ce mercredi à Lyon à 19h, temps universel. Le Pays de Galles vise la première finale d'un grand tournoi de son histoire et ont déjà dépassé son meilleur résultat, un quart de finale au Mondial 1958 en Suède. Le vainqueur de la demi-finale, le Portugal de Pays de Galles, affrontera dimanche en finale au Stade de France, le vainqueur entre la France et l'Allemagne.
Et Nicolas, l'autre demi-finale, hein, c'est demain, le choc entre la France et l'Allemagne.
Oui, les Bleus veulent absolument être au rendez-vous ce dimanche en finale et devront s'employer pour vaincre les champions du monde allemands. Comment les hommes de Didier Deschamps peuvent se qualifier? Certainement en mettant en avant leur esprit revanchard. Le point avec Christian Mpanzu.
Deux ans, voilà deux longues années que l'équipe de France attend de retrouver l'Allemagne en compétition officielle. La dernière fois, c'était lors du Mondial 2014 au Brésil. Les Allemands avaient éliminé la France au stade Maracana. Une défaite qui est restée dans l'esprit des joueurs français, et notamment chez Antoine Griezmann, en larmes sur le terrain à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, l'équipe de France ne fait plus de complexe et aborde cette demi-finale en pleine confiance. Meilleure attaque avec 11 buts, les Bleus font même peur aux médias allemands qui ont ciblé 4 joueurs à stopper. Griezmann, Giroud, Payet et Pogba. L'Allemagne, de son côté, devra composer avec les absences de Mario Gomez et Sami Khedira blessé. Schweinsteiger est incertain et Mats Hummels est suspendu. L'ossature allemande reste tout de même de classe mondiale et leur expérience à ce niveau de la compétition pourrait faire la différence. Le match a lieu au Stade Vélodrome de Marseille à 21h. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
C'était le journal de l'Euro présenté par Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Les autorités provinciales du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, portent gravement atteinte aux efforts de certification minière en fermant les yeux sur des pratiques illicites dans le secteur aurifère. C'est ce qu'affirme un rapport de l'ONG Global Witness publié hier. Les fonctionnaires zimbabwéens ont entamé hier une grève pour protester contre le non-paiement de leur salaire en juin sur fond de tensions croissantes dans ce pays dirigé depuis 1980 par Robert Mugabe et embourbé dans une grave crise économique. Seuls les membres des forces de sécurité ont été payés en juin. Les autres fonctionnaires n'ont reçu qu'une avance sur salaire de 100 dollars. Ces discounts mettent un terme à ses activités au Cameroun et au Sénégal. D'après le magazine Jeune Afrique, le groupe français de commerce en ligne, déçu par ses résultats, mais aussi impacté par des difficultés au Brésil, plie bagage après moins de 2 ans d'activité. Il maintient pour l'instant ses opérations en Côte d'Ivoire.
Morgan Guiriek et Bagassi Courant, votre compagnie place maintenant au dossier du jour. Première escale.
Le Sénégal. Une seule lune, une seule fête de l'Aïd El-Fitr cette année. C'est une première dans le pays. L'observation du croissant de lune à la fin du ramadan par diverses confréries et associations islamiques a parfois conduit les musulmans sénégalais à célébrer jusqu'à 3 corités. L'imam Mbaye Ndiang explique ici pourquoi les autorités musulmanes sont tombées d'accord cette année.
Nous n'avons pas commencé en même temps. Il y a eu un décalage d'un jour, des uns par rapport aux autres. Mais nous avons finalement arrivé ensemble pour fêter ensemble aujourd'hui. Les uns ont fait 29 jours, d'autres ont fait 30. Il y a 2 commissions. Il y a la commission de la coordination des musulmans de Dakar et la commission nationale qui siège à la RTS. Avant-hier, la commission de la coordination de Dakar a scruté la lune, mais a déclaré n'avoir pas vu la lune ni au Sénégal, ni dans la sous-région. Donc, ils ont décidé de jeûner 30 jours. Les autres ont scruté la lune le lendemain, c'est-à-dire hier, et ont déclaré avoir vu la lune partout au Sénégal. Ce qui a fait que nous avons fêté ensemble aujourd'hui.
Comment se fait-il qu'il y ait plusieurs autorités finalement qui observent la lune et non pas une seule au Sénégal?
Parce qu'il y a plusieurs communautés religieuses au Sénégal. Il y a des confréries et chaque confrérie a son guide. Il y a aussi les associations islamiques. Donc il n'y a pas un seul guide spirituel musulman au Sénégal.
Mais est-ce que cette observation du croissant de lune pourrait varier d'une personne à l'autre alors?
C'est les sources qui peuvent varier. Les sources. Il y a des gens qui écoutent leur guide religieux. Il y a d'autres qui disent que si la lune a aperçu quelque part dans le monde islamique, eux, ils peuvent jeûner. Bon, ça, en général, c'est les intellectuels, c'est les associations islamiques. Mais ceux qui appartiennent aux confréries écoutent leur guide.
Alors, est-ce que ce type de fonctionnement où l'on observe chacun pour soi est également effectué dans d'autres pays, dans d'autres régions, ou est-ce que c'est typique au Sénégal?
C'est tout à fait typique au Sénégal. Dans d'autres pays, dans d'autres régions, il y a une seule autorité qui valide l'information sur laquelle se fondent les populations pour jeûner. Dans les autres pays, on n'a jamais assisté à 2 fêtes dans un même pays. Ici, il est arrivé même qu'on a fêté 3 fois.
L'imam et député sénégalais Mbaye Ndiang est adjoint à Dakar. Rendez-vous sur voafrique.com pour l'intégralité de cette interview.
En République centrafricaine, les musulmans ont, eux, pu, pour la première fois en 3 ans, fêter l'Aïd en toute quiétude. L'imam Oumar Kobine Layama en a témoigné. Il a été joint à Bangui par Anastasie Toudies.
Le ramadan de cette année s'est bien déroulé, ça s'est bien passé. C'est exceptionnel cette année, vu la mobilisation de nos compatriotes pour qu'on partage avec eux ce message, le message de paix, le message d'amour, de fraternité et de vivre ensemble.
Donc vous dites que si les musulmans ont pu prier pacifiquement, ont pu faire le ramadan et fêter l'Aïd, c'est grâce aux autres croyants?
Oui, aux autres croyants, parce qu'ils ils sont mobilisés, ils se mobilisent à côté de leurs frères musulmans pour prouver à la communauté nationale et internationale que la crise n'est pas une crise religieuse et que les croyants entre eux n'ont pas de problème, n'ont pas de haine entre eux. Ils sont pris tous en otage.
Après la guerre, de nombreux, très nombreux musulmans ont fui la République centrafricaine. Est-ce que vous avez constaté des retours ?
Il y a des retours parce que même dans les zones périphériques où les musulmans sont tous concentrés, il y a problème de loyer. Les musulmans n'arrivent pas à trouver des maisons pour des locations. Tout ça, ça prouve que les musulmans sont en train de revenir dans leur pays, qui est abandonné à eux-mêmes. Ils sont obligés de se réfugier pour se protéger. Mais maintenant, comme il y a la calmie, ils pensent plutôt revenir souffrir chez eux. C'est la meilleure solution.
Aujourd'hui, après le Ramadan et après la fête de l'Aïd, quelles sont les préoccupations des musulmans en République centrafricaine ?
La préoccupation des musulmans, c'est la préoccupation de toutes les communautés religieuses en République centrafricaine. C'est de voir le pays pacifié, l'ordre constitutionnel est rétabli, et que le pouvoir du gouvernement soit déployé dans tous les pays, que les désarmements soient effectués pour vraiment concrétiser un vivre ensemble dans la transparence et un retour de la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire.
Voilà, bonne fête de l'Aïd El Fitr à Boire dans l'ouest de la Centrafrique et aussi au kilomètre 5 à Bangui. C'était l'imam Omar Kobine Layama. Il a été joint en Centrafrique.
Dans le territoire de Shabunda, à l'est de la République démocratique du Congo, les groupes armés reçoivent de l'argent et des armes d'une entreprise minière chinoise. Les mêmes groupes se font au moins 25 000 dollars chaque mois depuis 2013, selon un rapport de l'ONG Global Witness. Ils extorquent aussi des taxes à des locaux qui exploitent les mines artisanales. Cette contrebande a causé un manque à gagner au gouvernement congolais de 38 millions de dollars de recettes fiscales, estime l'ONG britannique. Eric Manirakiza a joint à Londres la chercheuse auprès de Global Witness, Sophia Pickles.
Les femmes qui opèrent au Congo agissent en violation flagrante de la législation congolaise sur les chaînes d'approvisionnement pour s'assurer qu'ils s'approvisionnent d'une manière responsable. Et ça, c'est une loi au Congo depuis 2012. Nous avons remarqué que les autorités provinciales, aussi Kivu, n'ont pas bien respecté le mandat. Et nous exigeons que le gouvernement congolais doit réclamer des comptes aux responsables provinciaux lorsqu'ils négligent d'exercer le devoir dans le secteur orifère artisanal, comme au Shabunda, ou lorsqu'ils opèrent dans l'illégalité aussi.
Y a-t-il des intérêts pour le compte des autorités locales ou provinciales ou même Kinshasa?
Le ministre des Mines de Sud-Kivu de l'époque et les membres de son équipe ont appuyé publiquement l'affirmation de Kounou Mining que l'entreprise n'a pas exporté de l'or pendant la ruée vers l'or. Mais au début de l'année 2016, les autorités provinciales de Sud-Kivu ont modifié leur version de fait. Et en fait, tout au long de cette période, les autorités à Kinshasa ont exprimé des inquiétudes face à ce qui s'est passé au long de la rivière Oulindi. La société civile congolaise aussi a réclamé ce qui s'est passé à Shabunda. Et c'était juste en 2015 que le ministre des Mines à Kinshasa, Martin Kabouludo, a ordonné la saisie immédiate des dragues de la production d'or de Kounou Mining par les autorités provinciales au sud Kivu. Malheureusement, en mars 2016, deux témoins ont confirmé à Global Witness que l'activité continue à Shabunda et que les dragues de Kounou étaient encore là sur le lundi. Alors nous avons vu que la situation n'a pas vraiment changé. Il n'y avait pas une réponse responsable des autorités du Sud Kivu.
Comment arrêter cela?
Le gouvernement congolais doit réclamer des comptes aux responsables provinciaux lorsqu'ils négligent d'exercer le devoir ou lorsqu'ils opèrent dans l'illégalité. Deuxièmement, les firmes qui opèrent illégalement au Congo, telles que Kounou Mining, devraient faire l'objet d'une enquête. Et s'ils ont réseau des preuves d'actes répréhensibles, des poursuites devraient être engagées à leur encontre. Les sociétés doivent, à tous les stades des chaînes mondiales d'approvisionnement en or, mettre en œuvre un guide international qui a été fait par le OCDE sur le devoir de diligence pour s'assurer qu'ils s'approvisionnent des minerais dans une manière responsable. Les mineurs artisanaux qui opèrent dans l'est du Congo doivent recevoir un soutien adéquat du gouvernement congolais, qui n'est pas le cas en ce moment. Il y a notamment un organisme public public congolais qui s'appelle CESCAM, qui est chargé de superviser le secteur artisanal, qui ne fait pas son travail comme il faut actuellement et à notre avis qui doit être reformé de toute urgence.
Sophia Peckles à Londres.
Numéro exceptionnel de Washington Forum sur l'esclavage, qu'il soit ancien ou moderne. Nous serons en présence de Biram Dah Abeid, figure mauritanienne de la lutte contre l'esclavage, libérée le 17 mai dernier après 20 mois de prison, alors qu'au moins 14 membres de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, ont été arrêtés cette semaine à Nouakchott. Alors la Mauritanie tient-elle un double discours sur sa loi anti-esclavage ? Quelle est la situation ailleurs dans le monde ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Voilà, au Congo-Brazzaville, les abonnés dénoncent la mauvaise facturation des services de communication. Nombreux se disent désabusés. Les audits sont en cours. On fait le point avec Nguela Ngoussou à Brazzaville.
Dans les rues de Brazzaville, de nombreux abonnés des sociétés de téléphonie mobile se plaignent de surfacturation de leur consommation. Certains n'hésitent pas à poster leurs déboires sur les réseaux sociaux, accusant ces sociétés d'arnaque.
J'interroge mon crédit, on me dit que j'ai zéro franc. J'ai failli, comme en tout cas, permettez-moi l'expression, mais j'ai pété un câble parce que je ne peux pas comprendre qu'un crédit de 1000 francs, j'ai activé un forfait de 75 francs, s'il fallait que ça finisse, mais ils ne pouvaient pas prendre tout ce crédit. Bon, là, il faut qu'ils m'expliquent. Franchement, ce n'est pas normal. C'est de l'arnaque pure et simple.
En tant que consommateur, nous recevons certaines informations, des messages parfois désagréables qui sont parfois taxés. On veut profiter de notre ignorance, de notre non-information pour se faire de l'argent. Et ce qui n'est pas normal. Nous avons des industriels qui ont failli et par conséquent on est fondé. De ce point de vue-là, les actions en justice aboutiraient.
Mermos Babunga, responsable d'une association de consommateurs, parle même d'un préjudice de plus de 300 millions de francs CFA le mois. Il s'est adressé à l'autorité de régulation des télécommunications, mais n'est pas satisfait de la suite à lui réserver.
Notamment Airtel et MTN, il faut les citer, parce que ce sont eux les opérateurs dominants dont il s'agit. Maintenant, au niveau de l'RPCE aussi, nous, en tant qu'observateurs congolais des droits des consommateurs, nous soupçonnons une certaine connivence entre le régulateur et les opérateurs de téléphonie. Mais oui, c'est de l'arnaque, puisque c'est au mépris de la loi. Il y a une décision de l'RPCE qui avait fixé les montants plafonds à hauteur de 10 francs pour le SMS entre Airtel et MTN et 3 francs pour les opérateurs du même réseau. Et là, on est passé de 10 francs à 41 francs et de 3 francs à 16 francs. Et c'est de l'arnaque.
Et pourtant, l'autorité des régulations explique qu'il n'y a jamais eu plusieurs prix. C'est l'ancienne tarification qui s'applique à ce jour. Antoine Ndekololo, directeur de l'économie et des marchés à l'ARPCE.
Il y a l'État qui a instauré une taxe sur les communications électroniques. Et du coup, on s'est vu que pour ne pas trop pénaliser, n'est-ce pas, le consommateur, il était donc question de retirer cette décision sur les tarifs plafonds. Nous avons demandé aux opérateurs de revenir sur les tarifs qu'ils pratiquaient avant. Nous avons commandé un audit tarifaire qui est présentement en cours. Et donc après cet audit tarif, on va peut-être demander à certains de revoir le tarif à la hausse ou bien en baisse, selon que le résultat de l'audit tarifaire l'indiqueront. Voilà donc l'action qui est en cours.
Les sociétés indexées, elles, n'ont pas souhaité réagir. Elles estiment travailler à la satisfaction de leurs abonnés et promptes à résoudre le moindre problème. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Joselle Morissin était à la mise en onde, Joe Gill à la console, présentation Morgan Guiriec et Bagassi Koura.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info est en continu sur notre page Facebook et aussi sur voafrique.com. Vous êtes plus d'un million 250 000 et on maintient la conversation donc sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com et c'est 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.